Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur l'évangile de dimanche prochain, le troisième dimanche du temps ordinaire. Nous avons droit à un évangile d'appel, c'est en Marc, au chapitre 1, les versets 14 à 20. Je vous lis le texte. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque, qui réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Le texte se divise en trois épisodes. Un premier épisode est la proclamation de la venue du royaume par Jésus et l'appel à la conversion. Un deuxième épisode nous relate l'appel de Simon et d'André son frère. Et un troisième épisode nous relate l'appel de Jacques et de son frère Jean, les fils de Zébédée. Regardons le premier épisode et je voudrais m'arrêter tout particulièrement sur une première expression: les temps sont accomplis. Le terme grec qui manifeste l'accomplissement nous donne une idée de quelque chose qui est vraiment rempli, quelque chose qui a atteint son terme, quelque chose qui a atteint toute sa capacité. Les temps sont accomplis, on pourrait dire que les temps sont mûrs. En effet, Jean-Baptiste, celui qui devait préparer la venue du Messie, a été arrêté. Jean-Baptiste a terminé sa mission. Jean-Baptiste a terminé son temps de préparation. C'est désormais le temps du Messie qu'il annonçait. Deuxièmement, on dit que les temps sont accomplis parce que le royaume de Dieu est tout proche. En quoi est-ce que le règne de Dieu est tout proche? Parce que le règne de Dieu est pleinement réalisé en l'humanité de Jésus. Comment cela? Souvenons-nous que le passage qui précède immédiatement notre épisode, ce sont les tentations de Jésus au désert, racontées assez succinctement par Marc, mais pourtant bien présentes. Et qui voit-on? On voit la victoire de Jésus sur le tentateur, qui n'a pas réussi à le faire chuter. On voit aussi Jésus dans le désert vivre avec les bêtes sauvages sans qu'elles lui fassent aucun mal. On voit aussi Jésus ayant vaincu le tentateur qui est servi par les anges. Il nous était donné en fait de contempler en la personne de Jésus comme un retour au temps d'avant le péché, d'avant la chute. En effet, au jardin de la Genèse, l'homme vivait en paix parmi les animaux sauvages, il ne lui faisait aucun mal. Au jardin de la Genèse, le serpent avait prévalu sur l'homme et la femme en les entraînant dans la chute. Ici, le Christ Jésus, dans la vérité de son humanité, déjoue toutes les tentatives, toutes les ruses du démon qui est sans prise sur lui. Si bien que les anges, au lieu de barrer l'accès à l'arbre de vie, servent le Seigneur avec un terme qui signifie tout particulièrement le service de la table. Voilà que ceux qui empêchaient l'accès à la nourriture donnent à Jésus désormais la nourriture dont il a besoin, la nourriture qui lui convient. On voit donc en la personne de Jésus le rapport à la création, à la nature, à travers les bêtes sauvages qui est rétabli, la puissance et la pureté de l'homme en alliance avec Dieu qui est victorieuse des ruses du tentateur, et le rapport avec les êtres célestes qui est désormais restauré et paisible à travers le service angélique. Donc, en Jésus, le règne de Dieu est établi, et l'enjeu maintenant est l'ouverture, l'élargissement de ces frontières du règne de Dieu. L'élargissement au peuple juif et ensuite à toute l'humanité du règne de Dieu, comme il est déjà en œuvre en Jésus. Le terme grec qui est utilisé pour parler de règne de Dieu, basileia, est d'ailleurs un terme qui a plein de richesses pour nous. En effet, il désigne à la fois la réalité du royaume et la réalité du règne. Jésus dit donc tout en même temps, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, et il dit en même temps, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche. En quoi cela fait-il une nuance ? Lorsque l'on dit le règne de Dieu est tout proche, on désigne plus particulièrement la façon d'y vivre, la façon dont le gouvernement de Dieu s'exerce. Lorsque l'on dit le royaume de Dieu est tout proche, en désignant le royaume, on désigne l'extension de cette autorité, c'est-à-dire jusqu'où vont les frontières du royaume. Cette distinction va être précieuse pour comprendre la portée de l'appel à la conversion. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. La conversion, en relation avec le terme royaume, va être l'extension des frontières sur laquelle je vais accepter l'autorité de Dieu. Une extension qui touche tout le peuple juif, une extension qui va aller jusqu'aux païens, mais une extension que je peux regarder jusque dans mon propre cœur, jusqu'aux différentes zones de ma vie. Il y a parfois des zones de mon existence où je ne laisse pas le Seigneur aller. Seigneur, je te laisse aller dans ma vie le week-end, mais pas dans la semaine, mais pas dans mon travail, ou bien pas dans telle discussion avec tels amis. La conversion va donc être de déplacer la borne des zones de ma vie sur lesquelles je reconnais l'autorité de Dieu, sur lesquelles j'accepte l'autorité de Dieu. C'est un petit exercice que nous pouvons faire de réfléchir quelles sont les zones de mon existence, les zones de ma vie sur lesquelles je ne veux pas de l'autorité de Dieu, sur lesquelles je ne lui ouvre pas la porte. Lorsque l'on rapporte le terme de conversion à celui de règne, on va se pencher plus particulièrement sur la façon dont on vit comme Dieu, dont on aime comme Dieu, ou au contraire, comme on n'aime pas comme Dieu. Pour prendre un exemple, si je réfléchis à comment le règne de Dieu est descendu jusque dans ma parole, je peux regarder comment est-ce que ma parole se conforme à celle de Dieu, comment est-ce que ma parole devient une parole de vérité, une parole de bénédiction, une parole de vie, une parole d'encouragement. Quelle va être la profondeur de la ressemblance de ma parole avec la parole de Dieu ? J'ai étendu les frontières du royaume de Dieu jusqu'à ma parole, et je regarde maintenant quelle est la profondeur de la ressemblance de ma parole par rapport à celle de Dieu. Penchons-nous maintenant sur le terme de « convertissez-vous ». Convertissez-vous, c'est un terme qui signifie changer notre façon de penser, changer notre façon de voir les choses, changer notre façon de les apprécier. La conversion en grec, c'est la métanoïa. C'est le méta à côté, le nous, notre capacité à réfléchir. Eh bien, c'est une capacité à réfléchir qui est à côté de celle que nous avions d'ordinaire. La conversion ne peut donc se limiter à un changement de pratique. Je faisais d'une certaine façon, maintenant je fais d'une autre. Cela doit aller en profondeur jusqu'à notre capacité à réfléchir les choses, jusqu'à notre capacité à voir les choses du monde. Vouloir se convertir nous amène donc à oser un petit exercice. C'est-à-dire quand j'identifie un point de conversion, je n'identifie pas simplement un acte que je fais ou que j'arrête de boire ou je continue de boire, mais je veux aller, si c'est une conversion véritable, jusqu'à l'intelligence avec l'esprit et avec le cœur de pourquoi j'arrête ou de pourquoi je continue. Choisir un point de conversion, choisir un lieu de conversion, c'est donc aussi avoir réfléchi, avoir identifié cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de voir qui justifie le changement de pratique. Je suis capable de rendre compte des raisons pour lesquelles je modifie mon comportement. Je suis capable de dire quel est le bien que je vois à modifier ce comportement. Et au petit enfant, on dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, sans qu'il ne comprenne forcément pourquoi on lui a dit de faire ceci ou de pas faire cela. Il va s'abstenir par confiance, ou il va faire là encore par confiance en celui qui lui parle, mais il n'a pas encore impliqué son intelligence et son cœur à comprendre le bien, à penser différemment. Eh bien, celui qui se convertit, l'adulte qui se convertit, doit aller jusqu'à cette nouvelle façon de penser, ce renouvellement de la façon de penser. Voilà pour le premier épisode. Avant d'aborder les deux petits épisodes qui suivent, je vous propose un petit exercice. C'est de prendre quelques minutes pour regarder ces deux passages et de noter d'une part en quoi ils sont semblables et d'autre part en quoi ils sont différents. Vous avez donc d'un côté l'appel de Simon et André, de l'autre côté l'appel de Jacques et de Jean. Repérez ce qui est similaire dans les deux et repérez aussi les différences entre les deux. Je vous laisse quelques minutes. Je reprends le commentaire, vous avez eu le temps de regarder les similarités et les différences. Je commence par les similarités. La première chose, c'est le mouvement de Jésus. Jésus passant d'un côté le long de la mer de Galilée, et de l'autre côté Jésus qui avance un peu. Pourquoi remarquer cela ? Parce qu'il y a une initiative de Dieu. Il y a une initiative de Dieu qui vient porter le salut sur la terre. Notre Dieu n'est pas un Dieu passif qui attend qu'on vienne à lui. Notre Dieu est un Dieu qui parcourt la terre, qui parcourt l'histoire des hommes pour aller à leur rencontre. Deuxième similarité, Jésus vit. On insiste sur ce regard de Jésus qui voit d'une part Simon et André, d'autre part Jacques et Jean. Cette vision du Seigneur de la réalité de l'être humain, de la réalité d'où en est l'être humain. On se souviendra que dans le livre de l'Exode, Dieu avait vu justement les tribulations de son peuple, la souffrance, la détresse de son peuple en esclavage. Nous sommes face à un Dieu aussi qui voit l'homme. Ce n'est pas un Dieu aveugle, c'est un Dieu qui voit la profondeur de la vie de l'homme, ses aspirations, ses joies, ses souffrances. Troisième similarité, on insiste sur le fait que ce sont des frères, Simon et André, le frère de Simon, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Et cela n'est pas anodin. Cela n'est pas anodin car, généralement, dans l'écriture, les histoires de fratrie se sont mal passées. C'était Caïn et Abel, c'était Jacob et Ésaü, c'était Joseph et ses frères. Ici, nous allons avoir l'histoire d'une fratrie nouvelle et d'une fratrie qui réussit. Jésus va susciter, mettre en mouvement une fratrie qui réussit. Quatrième similarité, les deux reçoivent un appel et les deux vont se mettre à suivre Jésus. Regardons maintenant quelques différences. En ce qui concerne Simon et André, on va insister sur leur métier. C'étaient des pêcheurs, et cela aura une importance parce que la mission à laquelle Jésus les appelle est de devenir pêcheurs d'hommes. Il y a bien une rupture, pêcheurs d'hommes ce n'est pas la même chose que pêcheurs, et en même temps il y a aussi une continuité. Vous étiez pêcheurs de poissons, vous demeurerez pêcheurs, mais ce que vous chercherez à prendre sera différent, ce seront des hommes désormais. Il y a quelque chose de beau et de particulièrement touchant à voir que l'envoi que Jésus fait tient compte de l'histoire, des qualités, des talents des hommes, même s'ils sont utilisés différemment que ce qu'ils auraient imaginé. c'est bien des pêcheurs d'hommes. Ça n'est pas sans rapport avec leur histoire, avec leur talent. Du côté de Jacques et de Jean, on va insister sur leur filiation. On nous indique qu'ils sont les fils de Zébédée et on nous indique aussi qu'ils laisseront dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers. Tandis que Simon et André avaient laissé du matériel, les filets pour suivre Jésus, Jacques et Jean laissent des personnes de leur famille pour partir à la suite de Jésus. La suite de Jésus implique un bouleversement. Elle transforme le rapport à nos possessions, elle transforme le rapport à nos relations. Mais de la même façon que pour Simon et André, leur avenir aussi serait en écho avec ce qu'ils étaient, de pêcheurs, ils deviennent pêcheurs d'hommes, eh bien, nous pouvons supposer que l'avenir de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, va être aussi impacté par le fait de découvrir une nouvelle paternité, la paternité que Jésus va révéler de son propre Père, dont il fait de nous les fils. Je voudrais terminer sur un dernier élément. On peut s'étonner de la capacité qu'ont eu ces hommes de suivre Jésus. La mise à la suite de Jésus semble radicale, immédiate. Et l'on peut se demander, mais comment cela est-il possible? N'avait-on pas des choses à régler? N'aurait-on pas eu un peu peur de partir comme cela en laissant tout? Cela nous amène à découvrir que dans l'appel que Jésus adresse, il y a aussi la force et la grâce de répondre. L'appel de Jésus n'est pas un appel froid. L'appel de Jésus n'est pas un appel dépouillé. L'appel de Jésus est riche d'une grâce qui nous donne la force et la liberté de répondre. L'appel de Jésus n'est pas simplement extérieur. L'appel de Jésus nous offre une grâce dont nous pouvons nous revêtir pour pouvoir lui répondre et le suivre. Et il est peut-être très important pour nous de méditer là-dessus. Face aux appels de Dieu, face aux appels de Dieu que je peux discerner dans ma vie, dans mes comportements, est-ce que j'ai cette confiance que l'appel de Dieu porte en lui une force pour y répondre, pour le mettre en pratique? Ou bien est-ce que je reçois la parole de Dieu comme une injonction, mais une injonction qui reste à distance? Elle m'exhorte, mais elle ne me rejoint pas par la grâce. La bonne nouvelle que le royaume de Dieu s'est approché, c'est aussi qu'à travers l'appel du Christ, la grâce de Dieu nous est donnée pour pouvoir y répondre, et que les exemples de Simon, d'André, de Jacques et de Jean nous manifestent que cette grâce est efficace pour oser tout laisser et suivre Jésus. Je vous souhaite de bons échanges.